Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Aujourd'hui, nous allons achever d'examiner l'enseignement que le Christ a réservé à ses disciples à l'aide des paraboles. Les gens qui le suivaient ne pouvaient pas comprendre. C'est ce que Jésus lui-même déclara. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Jésus révéla la signification des paraboles à ses disciples, et il leur en donna d'autres, que la foule n'entendit pas, car elle ne la concernait pas, mais elle concernait le ministère des disciples. Dès lors, il n'était pas nécessaire d'en cacher la signification. Par conséquent, ces dernières paraboles sont limpides. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les apôtres n'étaient pas convertis, ils ignoraient la tâche qui allait leur incomber. Après la crucifixion du Christ, l'apôtre Pierre prit une décision importante. Il déclara « Je vais pêcher ». Les autres apôtres répondirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Pourquoi ne prirent-ils rien? Il est fort possible que le Christ voulait qu'ils se remémorent ce qu'ils semblaient avoir oublié, ce que Jésus leur avait dit auparavant, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». C'était là la raison de leur appel. Les quatre paraboles que nous allons examiner devaient les aider à découvrir l'essentiel. Ils avaient été appelés à devenir des apôtres, des pêcheurs d'hommes. Ils devaient propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ce royaume que le Christ viendra bientôt établir sur terre. Jésus dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Un homme découvre dans un champ, et par hasard, un trésor de grande valeur. Il souhaite acquérir ce trésor, et donc, il n'hésite pas à vendre tous ses biens pour acheter le champ. Cette parabole souligne la valeur du royaume de Dieu, qui dépasse de loin la valeur des biens matériels périssables, du succès, du prestige de ce monde qui ne mène nulle part. Une personne sage reconnaîtra l'importance de l'appel qui lui est adressé par Dieu, et elle ne négligera aucun effort pour poursuivre dans le chemin étroit vers lequel Dieu la guide. Elle mettra en pratique la volonté de Dieu. Elle recherchera premièrement le royaume et la justice de Dieu, en sachant que tout ce qui lui est nécessaire lui sera donné par-dessus. Elle calculera la dépense et aura à cœur de devenir disciple du Christ, elle recevra ainsi la récompense promise à tous ceux qui vivent de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Christ ajoute, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. » Le marchand ne tombe pas par hasard sur la perle de grand prix. Il était à la recherche de belles perles. Cette perle de grand prix est le royaume de Dieu. Ce marchand était à la recherche des grandes valeurs spirituelles, des valeurs éternelles, et lorsqu'il découvre le royaume de Dieu, il ne veut pas l'abandonner, il veut l'atteindre. C'est cela sa priorité absolue. Jésus poursuit. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le message de la bonne nouvelle du royaume attire toutes sortes de gens, mais tous ne sont pas convertis, tous ne progressent pas vers le royaume. Tous n'ont pas un respect profond pour mettre en pratique la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Par conséquent, un tri devra être effectué. Lorsque l'apôtre Pierre a écrit « Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, c'est-à-dire dans leur ruine, dans leur corruption, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. » Il n'a pas question de gens de l'extérieur, mais d'enseignants se situant à l'intérieur du filet qui a été jeté dans la mer, ils sont parmi ceux qui cherchent le royaume. Plus tard, les anges les sépareront des justes. Avant d'en terminer avec cette parabole, Jésus demanda à ses apôtres, « Avez-vous compris toutes ces choses ?»« Oui, » répondirent-ils. Mais Judas aussi croyait avoir compris. Et il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe, instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Le message du Nouveau Testament est donc indissociable de l'enseignement de l'Ancien Testament. Les révélations du Christ n'ont pas annulé l'Ancien Testament. C'est ainsi que certaines révélations sont anciennes, d'autres sont nouvelles. Mais la vérité sur le royaume de Dieu réside dans sa parole et nulle part ailleurs. Jésus voyagea pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est ainsi qu'il se trouva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il séjourna peu de temps en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Faisons un retour en arrière dans l'histoire de cette région. Les Israélites qui formaient le royaume du Nord furent emmenés en captivité par les Assyriens et furent remplacés sur le territoire de cette région par des païens. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babil, de Cutha, d'Avva, de Hamath et de Sepharvaïm et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Ces nouveaux résidents furent appelés Samaritains. Leurs descendants demeuraient encore dans la région à l'époque du Christ. L'historien Flavius Joseph écrit « Ces nouveaux habitants de Samarie étaient de cinq nations différentes qui avaient chacune un dieu particulier et ils continuèrent de les adorer comme ils le faisaient dans leur pays. Dieu en fut si irrité qu'il leur envoya une grande peste. Ils députèrent aussitôt vers le roi d'Assyrie pour le supplier de leur envoyer quelques-uns des sacrificateurs hébreux qu'ils retenaient prisonniers. Ce prince le leur accorda et ils s'instruisirent de la loi de Dieu. Ces peuples, que les Grecs nomment Samaritains, continuent encore aujourd'hui dans la même religion. Lorsque nos affaires sont en bon état, ils protestent qu'ils nous considèrent comme leurs frères. Quand la fortune nous est contraire, ils disent qu'ils ne nous connaissent point. » Ceci est tiré de l'Histoire ancienne des Juifs, page 303. Les Samaritains ne s'intégrèrent pas entièrement à la population juive. Un certain antagonisme s'était installé entre eux. Voyons la remarque de la femme samaritaine à Jésus au puits de Jacob. « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il y avait peu de contacts sociaux entre les deux groupes. Vous pouvez ainsi mieux comprendre la parabole du bon Samaritain mentionnée dans le 10e chapitre de Luc. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Cette question est posée par un docteur de la loi, par quelqu'un qui est censé en être un expert. La réponse ne l'intéressait probablement pas. Ce qu'il voulait, c'était éprouver, tester Jésus sur sa connaissance de la loi. Le Christ lui répondit par une question. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Qui lis-tu ? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ces commandements se situent dans le livre du Deutéronome et dans le Lévitique. Il résume toute la loi qui est scindée en deux parties, l'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. La conscience de ce docteur de la loi lui reprochait peut-être certaines choses. Comment agissait-il envers les païens, les samaritains, les publicains? Aussi ce docteur de la loi poursuivit. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Il ne s'attendait certainement pas à la réponse du Christ. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » La victime était probablement un marchand juif qui rentrait chez lui avec le produit de ses ventes. À l'époque, le voyage de Jérusalem à Jéricho s'effectuait sur une route assez déserte, longue de plus de 30 kilomètres. Elle était fréquentée par des bandits qui dévalisaient les voyageurs solitaires. Roué de coups et abandonné le long de la route, cet homme à demi-mort avait besoin de soins. Un sacrificateur qui était censé connaître la loi et qui passait par là, poursuivit son chemin ne souhaitant pas être impliqué dans cette affaire. Il n'apporta aucune aide à son prochain. Un lévite passa devant le blessé et lui aussi préféra poursuivre son chemin sans intervenir. Aucun de ces 2 hommes de religion ne prirent la peine et le temps de secourir le blessé. Après eux arriva un païen, un samaritain qui, voyant ce marchand juif dans un piteux état, fut ému de compassion et il s'occupa de lui sans tarder. Le Christ demanda ensuite à celui qui l'interrogeait, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ?»« C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Cette parabole contient une leçon importante pour celui qui se veut chrétien. S'il se dit disciple du Christ, il doit faire preuve de compassion et d'impartialité, donnant assistance à ceux qui en ont besoin. Paul a écrit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Un chrétien ne peut causer aucun préjudice racial ou social. Tous les êtres humains sont appelés à devenir un jour, pour autant qu'ils se repentent et se convertissent, des membres de la famille divine. L'occasion leur en sera donnée à partir du moment où le Christ viendra établir le royaume de Dieu sur cette terre. La signification de cette parabole du bon samaritain se résume dans ce passage des Écritures. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Et ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner.